Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Bonjour, chers auditeurs et chers lecteurs. Alors, j'espère que vous avez fait de belles découvertes à l'occasion de la comédie du livre et que vous avez pu un petit peu récupérer. Alors gardez un petit peu d'énergie car nous allons partir loin, beaucoup plus loin que la place de la comédie, grâce à Philippe Vinard. Bonjour Philippe Vinard.
Bonjour.
Voilà Philippe Vinard qui va nous avec qui nous allons échanger sur son livre qui vient de paraître aux éditions Yovana, Les sirènes du Kampuchea. Vous savez, peut-être parmi les plus jeunes parmi nos auditeurs, ça ne veut même pas ce que c'est que le Kampuchea. On va l'évoquer. Hein, et puis avec nous aussi, Laurence Holvoet. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Hein, qui est là au titre des éditions Yovana, qui publie ce joli livre avec une belle couverture, comme d'habitude chez Yovana. Ouais. Alors, on peut peut-être commencer par présenter simplement dans quelle collection ça sort. Yovana, voilà, dire quelques mots de l'éditeur, et puis après nous partirons pour le Kampuchea.
Alors Yovana, les auditeurs fidèles doivent peut-être déjà connaître, puisque nous avions rencontré Julien Poujol il y a quelques semaines de cela. Donc là, ce titre qui vient de paraître la semaine dernière vient compléter la collection Voyage. Donc il y a deux collections chez Yovana. Cette collection Voyage qui édite des témoignages, hein, voilà, et l'autre collection qui s'appelle Roman situé. Donc là, nous sommes dans la collection Voyage. Et effectivement, Philippe Vinard a proposé aux éditions Yovana une collection de textes qu'il va nous expliquer, qui prennent racine dans une expérience qu'il a eue dans les années 80 au Cambodge, et qui à cette époque-là s'appelait la République populaire du Kampuchea, c'est bien ça Philippe ?
C'est exact. Voilà. Il y a eu la République démocratique, mais c'était les Khmers rouges, et la République populaire, c'était après les Khmers rouges, et maintenant c'est à nouveau le Cambodge. Le Kampuchea a disparu en début des années 90.
Voilà. Juste avant de commencer à parler du texte, Philippe Vinard est un travailleur humanitaire, et donc c'est à ce titre qu'il a beaucoup voyagé, et qu'il a notamment eu l'occasion de faire cette expérience relativement unique, et c'est ce qui a paru intéressant aux éditions Yovana, c'est de se plonger dans une période quasiment oubliée, qui est quasiment passée à la trappe, et pourtant qui est riche en enseignements, notamment sur les capacités des peuples, et notamment du peuple cambodgien, du peuple khmer, à surmonter des épreuves qui sont parfois très dramatiques.
Alors, voilà, Laurence Holvoet nous rappelle, oui, c'est effectivement quelque chose d'un peu oublié, des jeunes générations, les plus jeunes générations. Pol Pot, ça semble un nom rigolo, alors que c'est pas franchement quelque chose qui prête à sourire, le régime de Pol Pot. Alors, peut-être, vous pouvez nous refaire le tableau de ce moment-là, de l'histoire du Sud-Est asiatique, rapidement. Sinon on en a pour des heures.
C'est très compliqué, mais le régime Khmer Rouge qui a abouti au meurtre de près de 2 millions de personnes, le quart de la population, s'est écroulé en 79 et a été remplacé par un gouvernement mis en place par les Vietnamiens, qui était donc un gouvernement de collaboration avec beaucoup de Khmer sont partis en exil et le gouvernement officiel est resté dans les camps de réfugiés ou en Chine et aux Nations Unies. Mais ce gouvernement n'était donc pas reconnu. C'était le gouvernement du Kampuchea qui n'était plus démocratique. Le premier n'était pas très démocratique, mais c'était son nom. Et celui-là était populaire. Il n'était peut-être pas très populaire non plus. Et ce régime a duré jusqu'au début des années 90, aux accords de paix. Et là, le Cambodge est redevenu le Cambodge. à l'époque. Moi, j'y étais de 85 à 87.
Donc. Alors, vous y étiez à quel titre alors, donc, on a évoqué l'humanitaire.
On était en travailleur humanitaire.
C'était les French Doctors, comme on les a appelés.
À l'époque, c'était un peu moins connu. On ne parlait pas encore des travailleurs humanitaires. On était là pour des programmes pour l'enfance, pour la santé de l'enfance. Les Nations Unies n'avaient pas le droit d'y travailler puisque les Nations Unies reconnaissaient le gouvernement Khmer Rouge dans les camps de réfugiés. Donc c'était à titre d'ONG puisque ce pays n'était pas. Donc c'était une petite ONG française qui était la seule qui avait été admise à travailler. Donc on était 5 Français pour tout le pays pendant 2 ans. Et donc c'était une expérience un peu bizarre de se trouver tous coincés dans cet hôtel pendant la guerre, puisqu'il y avait le couvre-feu, on n'avait pas le droit de sortir. Et puis, il y avait un régime qui était très méfiant vis-à-vis des Occidentaux, puisque nous soutenions le gouvernement en exil avec les Khmers Rouges, qui continuaient la guérilla dans les campagnes et dans les forêts.
Oui, donc une époque très instable, en fait. Quelque chose de la fois un peu verrouillé dans ce que vous dites et puis dans ce que vous avez écrit, et en même temps avec beaucoup d'instabilité, beaucoup d'incertitude.
Alors, il y avait beaucoup d'incertitude puisqu'on ne savait pas très bien. Les Khmers Rouges étaient encore assez forts dans la guérilla. On ne savait pas si un accord de paix serait signé et la présence vietnamienne était très forte. C'est surtout aussi un régime extrêmement dur qui copiait le régime communiste vietnamien, mais qui n'avait souvent pas été voulu par beaucoup de Khmer et qui était en fait dirigé par d'anciens Khmer rouges qui avaient viré leur veste et passé de l'autre côté. Donc, ça restait un régime extrêmement dur où les libertés n'étaient pas du tout données. Et nous, par contre, par exemple, nous n'avions pas le droit d'aller chez l'habitant. On n'avait pas le droit de louer un appartement. On était tous coincés dans un hôtel, officiellement pour des raisons de sécurité, mais en fait, c'était surtout pour ne pas que l'on ait trop de contact avec les populations locales, puisque nous étions des espions occidentaux, d'une certaine façon.
Oui, alors, un hôtel dont vous avez fait presque un personnage de ces récits, hein, l'hôtel Number One.
Alors, c'est moi qui l'ai appelé Number One, mais cet hôtel, il a changé beaucoup de noms. C'était l'hôtel Royal, c'était l'hôtel qui a été reproduit dans ce beau film de la déchirure, qui est très émouvant, où tout le monde a été enfermé et tous les Khmers sont sortis pour être exécutés par les Khmers Rouges. Donc c'était un très bel vieil hôtel. Mais cet hôtel, après, il a changé de nom. Il est devenu Samaki, Solidarité. Moi, je l'ai appelé Number One parce que c'était le numéro un et qu'il y avait une sorte d'habitude un peu socialiste de dire Number One, Number Two, Number Three. Et donc, cet hôtel, oui, il avait une vie puisque là, on était une cinquantaine d'expatriés. Aucun expatrié ne pouvait être ailleurs qu'à l'hôtel. Mais les expatriés étaient très différents puisqu'il y avait à la fois des gens très engagés dans la lutte contre la guerre au Vietnam, pour le régime communiste. Il y avait aussi des religieux qui ne le disaient pas officiellement. Il y avait aussi des gens comme nous, des pré-travailleurs humanitaires, puisque le terme n'était pas encore utilisé, des médecins, des infirmiers, des gens qui essayaient de travailler pour l'aide à ce pays. Mais cette aide était très petite par rapport aux masses d'argent qui étaient données dans les camps de réfugiés, où quand même un quart de la population se trouvait.
Alors, c'est votre livre, alors est-ce qu'on peut dire que c'est un livre de témoignage? Il y a un peu de témoignage, il y a de la fiction, c'est pas un roman, ça faut tout de suite le dire. Hein, c'est plutôt, vous l'avez construit un peu comme un recueil de nouvelles,
dire. J'ai essayé de jouer le jeu de la vérité, c'est-à-dire je crois qu'aucun des faits et aucune des descriptions n'est inventé. Ce qui est fictif, c'est les personnages, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai rassemblé des histoires et des caractères de plusieurs personnages dans quelques personnages que je trouvais significatifs et qui pouvaient, entre eux, avoir une histoire. Mais les dialogues, les descriptions, les faits, les aventures, parfois dramatiques, parfois comiques ou parfois risibles, sont tous vrais. Et donc, dans ce point de vue-là, c'est un témoignage. Ce n'est pas un témoignage sur les atrocités de la guerre, c'est plutôt un témoignage sur le côté humoristique qu'avaient les gens entre eux dans leur capacité de survivre et d'y trouver encore un peu de l'humour et une capacité de rire d'une situation qui, pour beaucoup, aurait paru absolument dramatique.
Voilà. Donc en fait, ce qui nous a plu dans ces propositions, c'est qu'effectivement, on parle de la vie quotidienne. Donc à titre d'exemple, je vous lis quelques titres des chroniques qui donnent bien l'éventail des thèmes et des questions abordées. Donc le rythme du putsch, Philippe nous expliquera ce qu'est le putsch. Chapitre 2, l'école, la prison ou le musée. Le chapitre 3, hôtel number one. Le chapitre 4, la passion d'entreprendre. Le chapitre 5, le rouge et le gris. Le 6, le sens de la fête. Le 7, monsieur le doyen et sa cour. Le 8, le vieux diacre et monseigneur. Le 9, petite comédie et grand cinéma, etc., etc. Ce que je voulais illustrer là, c'était effectivement la variété des situations qui sont décrites dans ces chroniques.
Pour rebondir sur le pouch, que j'appelais parfois le putsch, à l'heure où on communique toutes les secondes par SMS, nous étions à un rythme, chaque semaine, un avion de la Croix-Rouge nous apportait le courrier, une grosse boîte. Donc, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de communication téléphonique. Et donc, on recevait une boîte, mais en même temps, on devait envoyer nos courriers. Donc, on envoyait les réponses de la semaine précédente. Donc, tout était avec à peu près 15 jours et toujours décalé, ce qui faisait toujours des explosions parce que finalement, nous répondions à quelque chose qui était déjà daté et les choses s'inversaient, que ce soit pour la mise en œuvre des programmes, pour des problèmes particuliers que nous rencontrions. Et donc, ce rite du pouch était vraiment le cordon ombilical qui nous donnait des nouvelles. Et puis aussi, c'était utilisé par beaucoup de Khmer pour avoir des nouvelles de leur famille. Et donc, on se trouvait porteur de lettres et parfois d'argent, puisque beaucoup de la communauté expatriée au Cambodge est très importante, enfin, du cambodgienne est très importante aux États-Unis, en France et dans beaucoup de pays. Et c'était le seul lien avec Phnom Penh.
Alors, oui, il y a plein de personnages. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de personnages attachants qu'on a envie de savoir ce qu'ils deviennent. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est le silence, c'est-à-dire les non-dits plutôt que le silence. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui se disent, qui se comprennent, mais qu'on ne peut pas dire. Ça se dit pas avec des mots, ça se dit autrement. Il y a ce personnage, notamment, que vous évoquez plusieurs fois, Soka. Avec lequel c'est difficile d'avoir des conversations non surveillées ou dans des lieux où c'est pas compromettant. Il va réapparaître dans plusieurs des récits que vous faites. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu de ce personnage? Je me dis, mais il a jamais reçu ses BD, le pauvre, à la fin. Alors.
Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que. À la fois, beaucoup de ces gens comme Soka ou comme les médecins qui travaillent avec nous, ils avaient fait leurs études rue de l'université à Paris ils étaient à Mabillon ou à la CTU. Ils étaient complètement français de culture, mais ils n'avaient plus le droit d'avoir des contacts avec nous et devaient travailler avec nous avec un intermédiaire d'un guide pour le faire en Khmer. Donc, c'était une situation assez absurde de devoir traduire alors que lui comprenait très bien. Donc, eux parlaient Khmer, mais nous, on parlait français, et le guide ne se donnait plus la peine de traduire parce que l'autre comprenait. Mais on n'avait pas le droit officiellement de le voir, donc ça crée beaucoup de silence. Et la seule manière de le voir, c'était de se faire des promenades en vélo côte à côte, où on échangeait des conversations, ou alors de se donner des rendez-vous par hasard, c'est-à-dire qu'on se quittait
officiellement. Oui, j'ai beaucoup aimé cette formule des rendez-vous par hasard qui se multiplient. Ah, oui. Ça ne marche pas, on va prendre un autre rendez-vous par hasard.
Voilà, alors on se quitte officiellement devant, et puis en douce, on passe par deux côtés du pâté de maison, et puis on se trouve dans un resto. Ah, docteur Heng, vous êtes là, mais venez. Et donc, ceux qui nous espionnent, puisqu'on était extrêmement suivis, ne pouvaient pas nous accuser d'avoir planifié ça. C'était le hasard qui a fait qu'on se rencontre, alors quand même qu'on échange un plat de riz ensemble, c'était quand même pas un début de corruption. Mais d'être suivi, c'était quand même très prenant, puisque j'avais trouvé un vieux Solex que j'avais réparé, et j'étais ravi de circuler en Solex, et j'étais convoqué au ministère des Affaires étrangères, qui m'a expliqué que la personne en charge de surveiller, pas de me surveiller, mais d'assurer ma sécurité, était en vélo, et que c'était un peu difficile pour elle de me suivre, parce qu'il y avait... Donc j'avais envie de proposer un sidecar.
Vous alliez trop vite, avec votre Solex.
Donc c'est des exemples qui montrent que les choses étaient à la fois dramatiques, parce que c'était quand même épouvantable pour ces gens, mais en même temps extrêmement touchantes, parce que de manière indirecte, on trouvait toujours une manière, comme ces rendez-vous par hasard, comme ces promenades en vélo, pour essayer d'échanger des choses de manière assez discrète. D'ailleurs, personne n'était dupe. L'important, c'était de garder les apparences. Mais quand même, chacun était à la merci d'être envoyé, de travailler à la frontière, dans ce qu'on appelle, ce qu'un de mes amis a écrit, le mur de bambou, c'est-à-dire un camp de travail forcé où les gens ont donc la peur d'être arrêtés et de disparaître. Et certains ont disparu. Et donc, Soka, par exemple, c'est une histoire qui est assez passée dans beaucoup de pays. Il y a eu des gens qui sont retournés en URSS après la révolution, en essayant et ont été très déçus et ont été surpris. C'est un peu la même façon. Soka revient dans le pays qui est enfin après la guerre, en espérant reconstruire le pays, et puis les choses se passent beaucoup plus difficilement pour lui. Et il disparaît à un moment.
Oui, à un moment donné, il y a un côté dramatique, alors que c'est un personnage qui semble très attachant, en tout cas, vous êtes attaché, en tout cas, dans le récit, on imagine dans la réalité aussi, qui voulait avoir des bandes dessinées, vous lui avez récupéré des bandes dessinées, mais que vous n'avez jamais réussi à lui transmettre au bout du compte.
Oui, alors il y en a d'autres que je suis arrivé à faire passer, mais si vous voulez, à partir du moment où les choses sont complètement bloquées, on essaye de trouver, il y a des petites choses sur lesquelles les gens sont sensibles et qui sont ravis d'avoir, parce que derrière ces bandes dessinées, c'est toute une vie antérieure qu'il a perdue. Sa femme est morte dans des conditions épouvantables. Donc c'est brusquement se raccrocher dans des choses qui paraissent futiles, mais qui ont pris une importance énorme, parce que, un peu comme l'autre guide qui a été tellement heureux, le hasard a fait que j'ai ramené un sac de couchage SNCF, il a voulu à tout prix le prendre pour en faire une chemise, parce que c'était le souvenir de ces trains qu'il aimait tellement bien en France, et donc il l'avait tout le temps avec lui. Donc c'est à la fois drôle et à la fois tragique, parce que c'était les choses se polarisent sur des petits points très touchants.
Oui, il y a une symbolique qui nous apparaît pas forcément tout de suite, mais qui est pas du tout anecdotique. C'est ce qui permet de continuer à vivre, hein, d'une certaine façon.
Ça, c'est du côté des Khmers, avec une capacité de résilience et d'adaptation et un sens de l'humour que l'on a trouvé beaucoup dans des pays socialistes, en Tchécoslovaquie ou ailleurs. Mais c'est aussi la communauté expatriée qui est totalement hétérogène et qui est obligée de vivre ensemble dans cet hôtel number one, à essayer quand même. Donc, vous disiez très justement, on ne dit pas, parce que si on commençait à parler, on allait se disputer, puisqu'il y avait des gens qui s'étaient toujours battus contre la guerre du Vietnam et d'autres qui, au contraire, essayaient encore de défendre le catholicisme qui était complètement qui disparaissait progressivement. Donc, le modus vivendi était de ne pas parler de choses importantes, mais de faire des soirées games, d'être convivial. Et donc, il y avait ce mélange de la langue de bois officielle du régime communiste et la langue de bois officieuse des humanitaires qui, entre eux, ne voulaient pas s'écharper, mais avec des positions forcément très différentes.
Oui, alors, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'humanitaire, moi, j'ai découvert des choses. Vous décrivez un peu, alors, on n'est pas encore dans le business humanitaire, peut-être, d'aujourd'hui, mais ça commence quand même à bien se structurer. Et il y a des stratégies, il y a des rivalités, il y a un tas de choses. Il y a notamment cette américaine, anti-américaine, si je puis dire, presque une américaine d'extrême-gauche, dans ce que vous racontez, qui est une espèce de la reine, pendant quelque temps, la reine du business humanitaire.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez l'évoquer un petit peu, ce personnage?
Juste avant de partir au Cambodge, j'étais avec Médecins Sans Frontières au Bangladesh, à cause du cyclone, mais à l'époque, personne, quand j'ai comparé avec le cyclone qu'il y a eu récemment, personne n'en parlait. Donc, il n'y avait pas encore ce business humanitaire connu. Mais d'un autre côté, justement, le fait qu'il y ait très peu de gens donnait un pouvoir et une capacité, et elle était très engagée contre la lutte contre le Vietnam. Elle avait d'ailleurs même une histoire amoureuse avec un soviétique qui était caché et qui finalement, à la fois c'était positif et bien vu du gouvernement, à la fois on ne savait plus si c'était la main de Moscou qui allait, parce qu'il y a une sorte de paranoïa et beaucoup de petites choses. Donc, quand je, ce que
oui,
je
parce
racontais...
que c'était très bizarre d'avoir un soviétique dans l'hôtel alors que normalement, il devait être à un autre endroit.
Parce que c'était un espion. Donc, comme on était un peu dans le huis clos, on finit par avoir un peu de la paranoïa sur peu de choses. Et aussi, dans ce contexte-là, ce qui était dramatique devient plutôt comique et absurde.
Alors, il y a plein de situations comme ça. Vous évoquez un peu tout à l'heure, vous parliez de « on fait comme si ». Et alors, il y a ce général qui a contribué à donner le titre à votre recueil, qui, à un moment donné, vous emmène dans une ex-station balnéaire du Cambodge. Elle est à la recherche ces sirènes.
On ne sait pas très bien, mais au début, il venait pour lutter contre la lèpre. Et quand il arrivait dans des villages, c'était vraiment un peu comme le roi thaumaturge qui allait guérir les gens, parce que c'était vraiment un peu le prestige, un homme extrêmement grand et portait beau. Il avait déjà quand même 65 ans, 70 ans, et il avait une manière de parler. Il avait fait la guerre du Vietnam, et il parlait des Viets, ce qui ravissait bien sûr les Khmers, parce que les tensions étaient très fortes avec les Cambodgiens. Donc lui pouvait se permettre, nous on n'aurait jamais osé. Donc il avait une liberté de ton extraordinaire, mais en même temps il était séduit par les femmes. Et il cherchait, et là, il y avait cette sorte de personnage mythique de cette sirène qu'il aurait vue à Kompong Cham, qui est une ville dans le nord et auquel on avait peu accès, où quand on y allait, il fallait être accompagné par des camions militaires. Donc forcément, pour une aventure amoureuse, c'est un peu plus difficile de la faire. Mais donc tout le monde fantasmait là-dessus. Et finalement, il nous a même emmenés dans cette station qui maintenant, je pense, est redevenue. La sirène, elle existe. Elle est une statue. J'ai retrouvé à côté de Kompot, à Kep. Mais c'est une statue parce qu'autrefois, c'était la station de la jeunesse dorée de Phnom Penh, du temps d'un régime à l'époque qui était considéré comme extrêmement doux et libéral, venait passer les vacances. Et donc, cette ville avait été complètement rasée et même punie avec acharnement, puisque c'était le symbole de la décadence capitaliste du régime précédent.
Alors, voilà. Laurence, oui.
Une petite lecture, Philippe.
Alors, peut-être, voilà, une petite.
Oui, vous n'avez pas très long, parce que je peux vous le dire,
pour
par exemple.
Vous avez le ton et le style un peu. Pour...
Voilà, vous avez le style. Absolument. Donc, ça s'appelle le marché des merveilles. C'est le marché qui se trouve à Phnom Penh. Maintenant, si vous allez à Phnom Penh, vous trouverez des tas de marchés et une situation un peu différente. Mais, cher monsieur, quand vous aurez terminé la lecture de votre quotidien préféré, je vous serais reconnaissant de me faire l'honneur de me le prêter. J'ai soif de lecture. Un mystérieux inconnu avait inscrit ce message d'une écriture très appliquée sur le dos de mon addition. J'avais pris un café pour le lire le journal Le Monde, que je venais de recevoir après 15 jours de retard, comme à l'accoutumée. Je m'étais installé pour cela sur l'une des petites tables d'un marché de Phnom Penh. Alors je saute quelques passages, mais c'est donc dans un de ces marchés privés que je reçus ce message en français derrière la facture de mon café. Après avoir déposé l'addition, la toute jeune serveuse est retournée précipitamment à sa caisse. Mais j'aperçus un vieux assis juste derrière le comptoir. Il détourna immédiatement le regard. Je ne pus alors achever mon café et je partis brusquement en laissant tomber négligemment mon journal sur la chaise. Je ne m'étais pas encore extrait du dédale des petites tables lorsque la jolie serveuse vint rafler le journal avec la monnaie et le rapporta au commanditaire. Depuis, je pris l'habitude de venir dans ce café lire mon journal. À chaque fois, c'était le même rituel. Je l'oubliais sur une chaise et j'observais le vieillard du coin de l'œil. Pourtant, jamais il n'osa sortir de son cagibi, ni même croiser mon regard. Donc vous voyez, cet homme qui écrivait d'ailleurs en très bon français voulait continuer, mais il avait tellement peur d'être vu en collusion et en même temps, et ça a duré pendant un an. Ce que je faisais d'ailleurs était totalement interdit, on pourra me le reprocher, mais laisser tomber un journal...
Ce que vous avez commenté dans les pages juste après que...
Oui.
Attention.
Et alors après, j'ai un peu fantasmé sur cet homme pour essayer d'imaginer ce qu'il était... c'est quelqu'un qui a sûrement dû vivre un état de traumatisme. Mais finalement, je n'avais pas trop envie. Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Ça aurait été tellement... cette petite complicité de lui donner ce journal me paraissait un rôle humanitaire, parfois peut-être plus important que les valises de médicaments qui finissaient au ministère.
Voilà, une complicité, effectivement. On parlait de non-dit tout à l'heure. Voilà, c'est une complicité dans le non-dit, dans les détours, dans la ruse, mais voilà, vraiment une complicité, quoi, avec tout le sens humain de la complicité, pas le sens militaire du terme, mais vraiment on se retrouve, on a des choses comme ça, un regard de loin et ça y est, on s'est compris.
Donc c'est vrai, c'est peut-être intéressant de voir ça maintenant quand l'humanitaire est devenu à la fois une machine, une industrie, était beaucoup plus performant que ce que nous étions, ce que nous apportions était très artisanal, même si moi-même, après, j'ai été impliqué dans beaucoup de programmes humanitaires en Afrique qui avaient beaucoup plus de poids, mais j'ai toujours gardé en souvenir de cette sorte d'humanitaire un peu poétique et en se disant qu'on a un peu oublié la difficulté de le fait que avec toutes ces contraintes, les gens gardaient une capacité de rire et même de poésie et de curiosité sur des petits détails. Je parle par exemple du cinéma, de l'écriture. Et donc tous ces éléments, pour moi, étaient tout aussi importants que la médecine.
En vous entendant, je me dis, vous nous parlez d'un humanitaire profondément humain. Que peut-être aujourd'hui, l'humanitaire est devenu tellement technique qu'il peut en oublier d'être humain parfois. Et là, vous parlez de quelque chose où il y a de l'humanitaire, mais il y a de l'humanité surtout, d'abord. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. D'autres projets d'écriture, puisque là, tous les lecteurs qui l'ont parcouru sont visiblement séduits et ont envie de dire, mais vous avez vu tellement de choses.
Après cette expérience qui m'a beaucoup marqué pendant 2 ans, je suis resté dans beaucoup d'autres pays, en Afrique et en Asie, pour plus longtemps, dans des contextes où il y avait une industrie de l'humanitaire beaucoup plus développée, si on peut dire, mais qui m'a souvent aussi intéressé. Mais là, j'ai gardé un peu un faible pour un autre pays qui a disparu, c'était le Zaïre, puisque lui aussi est devenu le Kampuchea, est devenu plutôt le Congo. Et donc, on peut, avec la même méthode, écrire la poésie qu'il y a et la capacité de résilience du peuple congolais, qui, malgré un contexte tout aussi tragique, mais très différent, garde sa capacité de rire.
Merci beaucoup, Philippe Vinard. Alors, si vous avez raté Philippe Vinard pendant la Comédie du Livre, nous sommes très heureux de avoir pu vous permettre de le découvrir grâce à la radio. Alors, Philippe Vinard, que vous pourrez rencontrer, du coup, je me tourne vers l'éditrice. Philippe Vinard. À Narbonne, très prochainement.
Je suis super mauvaise. C'est le week-end après la Comédie du Livre, donc c'est 24-25 à Narbonne, au Salon du Livre du Grand Narbonne, qui nous accueille donc.
Voilà.
Venir rencontrer Philippe Vinard, mais également Hélène Honora pour N'oublie pas Irma, et découvrir tous les autres titres des éditions Yovana.
Voilà. Oui. Si vous ne pouvez pas l'occasion d'aller à Narbonne, vous avez peut-être des amis qui sont à Narbonne, donnez-leur l'info et leur dites, ne ratez pas les éditions Yovana et Philippe Vinard et Hélène Honora, que nous avons aussi reçu ici. Alors, pour terminer, allez, un projet Philippe Vinard avec les... Alors, je sais pas, ce ne sera pas les sirènes cette fois, mais autour du Zaïre.
Ça, c'est des choses qui sont à l'étude. Et donc, pour l'instant, il y a différents projets. Il y avait le Zaïre, il y avait d'autres. Il y avait la Nouvelle-Calédonie aussi, éventuellement. Donc, voilà, c'est...
Et puis, il y a beaucoup d'autres écrivains à Yovana qui écrivent dans des tas d'autres pays. Donc.
Ah, ben voilà, voilà, tout à fait. Alors, on peut d'ailleurs évoquer, il y a des parutions qui vont arriver bientôt chez Yovana. Alors,
bientôt, non, parce que voilà, le livre de Philippe vient de sortir. On est une petite structure, donc on va l'accompagner. Et c'est pour la fin de l'aventure éditoriale. C'était maintenant, à un moment de l'impression. Maintenant, c'est la vie du livre, donc on va se consacrer là-dessus. Parmi les projets qu'il y a, il y aurait un projet d'un auteur uruguayen à traduction. Il y a des projets avec Hélène Honora aussi, autour de... voilà, donc on...
Ça reste, c'est des choses qui aboutiront plutôt à la rentrée,
Fin d'année.
Début 2020.
Plutôt fin d'année.
Nous parlions de travailleurs humanitaires, il y a le travail éditorial, et moi je tiens à saluer l'accompagnement d'une petite édition qui m'a accompagné là-dessus. C'était un long travail, ça a été une gestation. Ce livre, il a commencé à être écrit en 86, quand j'étais coincé dans l'hôtel Phnom dans les soirées, et que je me disais, on va peut-être écrire des choses sur ces nouvelles, et tout ça, ça a évolué. Et au final, la dernière année, j'étais accompagné par un éditeur, et c'était très agréable. Parfois, c'était un combat, parce que je ne voulais pas qu'on touche trop à mon texte, mais parfois, c'était une manière de le transformer utile.
En tout cas, je peux témoigner. Voilà, je vais assister à la présentation privée qui a été faite un peu de ce livre, avec la présence de Julien Poujol, l'éditeur. Il y a quelque chose d'une bienveillance de l'éditeur et même de familial, de quelque chose comme ça, qu'on va dans une proximité avec l'auteur, une complicité pour le coup, là aussi. Et on est dans de l'humanitaire et de l'humanité dans le monde de l'édition. C'est pas toujours les grands groupes, c'est pas forcément ça. Voilà. Merci Philippe Vinard, merci Laurent Solvoot, merci Lucille Rib à la technique et à très bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.